C'est l'heure du journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Donald Trump salue un grand jour pour Israël. L'ambassade américaine à Jérusalem a été inaugurée cet après-midi. En réaction, des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza se sont massés à la frontière avec Israël. Au moins 43 Palestiniens sont morts sous les balles de l'armée israélienne. La Turquie dénonce un massacre. L'Union européenne appelle à la plus grande retenue. Regain de mobilisation contre la réforme de la SNCF. L'intersyndicale a également lancé une consultation auprès des cheminots. La direction porte plainte après une série d'incidents ou d'actes de malveillance. La ministre de la Culture annonce des assises de l'égalité en faveur de la parité homme-femme dans le cinéma et une charte pour la parité dans les festivals de cinéma commence à circuler. 70 ans après la naissance d'Israël, les États-Unis ont donc, comme promis par Donald Trump, officiellement inauguré leur nouvelle ambassade à Jérusalem. Un acte symbolique fort, perçu comme une provocation par les Palestiniens. Ils se sont rendus en masse près de la clôture de séparation entre la bande de Gaza et Israël, dans le cadre des manifestations de la Grande Marche du Retour. Les heurts avec l'armée israélienne se sont multipliés et l'on compte ce soir 43 Palestiniens tués. Le récit d'Étienne Monin à Gaza.
Et derrière les heures de tension et de manifestations à risque, la plaine de Malaka à l'est de la ville de Gaza est évacuée au galop sur ordre du Hamas par crainte visiblement d'une escalade militaire. Quelques minutes avant, plusieurs tirs d'artillerie israéliens avaient visé un champ cultivé derrière et des cibles plus loin dans la ville. L'intensité de cette journée a brutalement augmenté en milieu d'après-midi. Il y avait trois zones distinctes côté palestinien, celle des soutiens et des curieux avec tout type de public, celle des courageux placés à 100 mètres de la barrière de sécurité et celle des téméraires qui disparaissent dans le rideau de fumée noire provoqué par les pneus enflammés pour réapparaître avec une longueur de barbelé arrachée à la première rangée de protection de la frontière. À cet endroit, à ce moment, la cadence des tirs israéliens devient régulière. Un homme tombe toutes les 20 à 30 secondes, blessé aux jambes pour la plupart, évacués dans la cohue des brancardiers qui font alors pendant une heure ou deux des allers-retours incessants dans le bruit continu des ambulances. Ces blessés sont à 100 mètres de la frontière. Ils ne représentent alors pas de risque sécuritaire ou de souveraineté. L'armée avait prévenu ce matin en jetant des prospectus. Les Palestiniens sur place justifient cette prise de risque par la légitimité de leurs revendications. Le bilan de cette journée rattrape celui des 7 autres manifestations cumulé.
D'après l'ambassadeur palestinien à l'ONU, il y a parmi les morts 8 enfants de moins de 16 ans. Ce soir, la France et l'Union européenne semblent redouter un nouvel embrasement au Proche-Orient, Marie-Pierre Véraud.
Oui, le bilan tellement lourd et en constante augmentation alarme en effet les chancelleries. Paris ne masque pas son inquiétude face, je cite, au nombre croissant de victimes palestiniennes dans la bande de Gaza. Aujourd'hui encore, le Quai d'Orsay demande à Israël de faire preuve de retenue dans l'usage de la force, qui, je cite, doit être strictement proportionné. Le nombre de blessés par des tirs à balles réelles atteint plusieurs centaines et l'on dénombre, vous le disiez, selon l'ambassadeur palestinien à l'ONU, au moins 8 enfants de moins de 16 ans parmi les tués de ce lundi, d'où ce rappel de Paris au devoir de protection des civils, en particulier des mineurs, et au droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Le communiqué est sévère. Il rappelle aussi sans ambiguïté que le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem contrevient au droit international et que Paris désapprouve la décision de Donald Trump. L'Union européenne s'inquiète elle aussi, par la voix de sa diplomate en chef, Federica Mogherini, de l'escalade dans une situation complexe et déjà tendue. Si Paris a choisi d'appeler l'État hébreu à faire preuve de discernement, l'Union européenne s'adresse aussi au Hamas, qui, écrit Madame Mogherini, ne doit pas exploiter les manifestations de Gaza. L'Union européenne est en effet divisée. La République tchèque, la Hongrie et la Roumanie ont bloqué la déclaration condamnant le transfert de l'ambassade américaine. Les termes de calme et de retenue figurent également dans le communiqué venu de Londres, autre membre permanent du Conseil de sécurité, conseil qui pourrait se réunir en urgence pour examiner la situation à Gaza. Mais les mots, les condamnations, voire les résolutions n'ont jusqu'à présent pas empêché l'escalade ni les violations permanentes du droit international.
À Jérusalem, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle ambassade américaine s'est déroulée sans encombre. Sébastien Sabiron, vous l'avez suivi pour nous.
Oui, une cérémonie feutrée, ponctuée d'intermèdes musicaux, alors qu'à 100 km de là, à Gaza, la situation dégénérait, contraignant Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, à adapter son discours.
Comme nous l'avons vu lors des manifestations des derniers mois et y compris aujourd'hui, ceux qui provoquent la violence font partie du problème. et non de la solution.
C'est pourtant sur la paix que Donald Trump a voulu insister dans un message vidéo enregistré, 2 minutes 35, durant lesquelles le président américain a répété, comme en décembre dernier, qu'Israël, État souverain, avait le droit de choisir sa capitale, tout en insistant sur la nécessité d'œuvrer pour la paix.
Les États-Unis restent pleinement engagés dans la recherche d'un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Et nous tendons une main amicale à Israël, aux Palestiniens et à leurs voisins. Puissent-ils vivre en paix ?
May there be peace.
Un discours beaucoup plus musclé, beaucoup plus patriote, en revanche, pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Quel jour glorieux ! Souvenez-vous de ce moment. C'est un moment historique. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire. Aujourd'hui, l'ambassade du pays le plus puissant de la planète a ouvert ici.
Benjamin Netanyahou qui a aussi évoqué à mots à peine couverts la situation à Gaza.
Nous sommes à Jérusalem et nous resterons ici. Nous sommes protégés par les braves soldats de notre armée et nos braves soldats sont en train de protéger notre frontière pendant que nous parlons. Nous les saluons tous.
Hommage appuyé aux soldats de Tsahal, hommage appuyé aussi à Donald Trump, mais contrairement à son homologue américain, Benjamin Netanyahou n'a eu que quelques mots pour la paix. Une paix qui, dit-il, ne peut être bâtie que dans la vérité, vérité selon laquelle Jérusalem est la capitale d'Israël et le restera.
Sébastien Sabiron à Jérusalem. Isabelle Labéry, vous avez suivi la cérémonie depuis Washington. Pas de surprise donc dans ces discours qui confirment la position américaine défendue depuis son élection par Donald Trump.
Oui, et cela commence même dès 7 heures ce matin. Alors qu'une dizaine de Palestiniens sont déjà morts à Gaza, le président américain tweet « C'est un grand jour pour Israël ». Son message vidéo reprend ensuite tous les arguments qu'il avait déroulés le 6 décembre au moment de son annonce. D'abord, la politique du fait accompli. Pendant des années, dit-il, nous avons refusé l'évidence, mais la réalité, c'est que la capitale d'Israël est Jérusalem. La promesse de campagne, le locataire de la Maison-Blanche fait ce à quoi il s'était engagé auprès de ses électeurs. La rupture avec les administrations précédentes, j'agis, dit-il, là où tous mes prédécesseurs ont renoncé depuis 1995 et le vote par le Congrès du transfert de l'ambassade. Alors Donald Trump se garde bien de définir les contours physiques de Jérusalem. Il rappelle que les États-Unis restent pleinement engagés pour une paix durable. Des mots qui sont repris par son gendre et conseiller sur le Proche-Orient, Jared Kushner, par l'ambassadeur américain, par le secrétaire d'État, comme s'il fallait dire à tout prix que ce coup de poker n'était pas une provocation, mais la manifestation de l'approche nouvelle vantée par la diplomatie américaine pour résoudre les dossiers qui se sont enlisés. Le tout, toujours sans un mot, pour les morts de Gaza.
Isabelle Labéry à Washington. En Irak, selon les premiers résultats officiels des élections législatives, le Premier ministre Adher al-Abadi, grand favori de ces élections, est devancé par deux listes anti-système. On se dirige donc vers une alliance très inattendue entre le parti du chef nationaliste chiite Moqtada Sadr et le Hashd al-Shaabi des supplétifs de l'armée proche de l'Iran. L'analyse d'Omar Waman depuis Beyrouth.
Ce ne sont que des résultats partiels, mais ils laissent entrevoir une victoire inédite dans l'Irak post-Saddam Hussein, celle de la liste composée du chef religieux chiite, Moqtada al-Sadr, et de candidats communistes. Une coalition improbable qui s'est jurée de débarrasser le pays de la corruption qui gangrène toutes les institutions. Son nom, la Marche pour les réformes. Elle arrive en tête dans 6 des 18 provinces, dont la capitale Bagdad, et en seconde position dans 4 autres. Ces résultats préliminaires marquent le retour en force de Moqtada al-Sadr, farouche opposant aux ingérences américaines et iraniennes, le chef religieux s'est efforcé de dépasser les clivages confessionnels et même idéologiques. Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits. Cette consécration, si elle se confirmait, serait en tout cas un véritable camouflet pour le favori de ce scrutin, Haider el-Abadi, le premier ministre sortant, auréolé de sa victoire contre Daesh. Il est devancé partout, sauf dans le nord de l'Irak, dans la province de Ninive et son chef-lieu Mossoul. Mais Haider el-Abadi peut toutefois espérer se maintenir à son poste et s'il parvient à faire alliance avec Moqtada al-Sadr, une éventualité envisagée durant la campagne, les négociations aurait déjà commencé.
Omar Waman, notre correspondant dans la région. Ça y est, la Catalogne a un président. Est-elle pour autant sortie des remous ? C'est loin d'être évident. L'ancien président de la région, Carles Puigdemont, qui n'a pas pu se présenter, a choisi pour lui succéder l'éditeur catalan Quim Torra. Il vient d'être élu ric-rac par les députés catalans par 66 voix contre 65. Bonsoir, Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir Aurélie.
Alors dites-nous-en un peu plus sur Kim Torra, qui a quand même une réputation non seulement d'indépendantiste pur et dur, mais certains l'accusent même de nationaliste, d'être un nationaliste xénophobe.
Oui, en effet, Kim Torra est un personnage très polémique. Il est en fait peu connu du grand public. Il a été désigné jeudi dernier par Puigdemont. Il est entré en politique récemment lors des élections du mois de décembre en devenant député de la circonscription de Barcelone avec la coalition Ensemble pour la Catalogne de Carles Puigdemont. En Espagne, les partis anti-indépendantistes sont persuadés qu'il a été en fait choisi par l'ancien président catalan pour le remplacer, mais de façon temporaire seulement. Albert Rivera, le leader du parti Ciudadanos, va plus loin et parle de président marionnette qui ne risque pas de faire de l'ombre à Puigdemont et qui va être là en réalité, qui va être en fin de compte Puigdemont, celui qui va gouverner la Catalogne depuis l'étranger. Par ailleurs, Quim Torra n'a pas d'ennui pour l'instant avec la justice espagnole, contrairement aux trois autres hommes qui avaient été jusqu'ici proposés la présidence, Puigdemont, Jordi Sánchez et Jordi Turull. Le nouveau président de la Catalogne, Quim Torra, est âgé de 55 ans, il est avocat de formation, il a travaillé aussi dans le monde de l'assurance avant de fonder sa propre maison d'édition. Ces dernières années, il s'est consacré corps et âme à la promotion de l'indépendance de la Catalogne en faisant partie notamment de la direction de la puissante association indépendantiste l'ANC et en présidant également provisoirement l'entité souverainiste Òmnium Cultural. Quim Torra est considéré comme un indépendantiste radical, un pur et dur, comme vous le disiez, qui s'est attiré les foudres de beaucoup d'Espagnols en publiant notamment ces dernières années sur son compte Twitter de nombreux messages très offensifs et xénophobes à l'encontre des Espagnols. Autant dire qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition n'étaient pas vraiment très contents et ne l'ont pas accueilli à bras ouverts en Catalogne.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. Parmi les mots qui font leur entrée dans le Robert Illustré 2019, l'expression « fiché S », elle est particulièrement d'actualité puisque le djihadiste qui a tué un homme samedi à Paris faisait l'objet d'une telle fiche depuis 2016. Et c'est ce dont l'opposition de droite et d'extrême droite s'est saisie pour accuser le gouvernement d'inaction en matière de lutte contre le terrorisme. Réplique du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, il est peu responsable d'attiser les divisions, les passions en tenant des propos démagogiques. Les fiches S servent toutes les semaines à démanteler des réseaux, à empêcher des attentats. Bonsoir Florence Thuram.
Bonsoir.
Pour l'instant, où en est l'enquête et que peut-on dire de ce mode opératoire?
Les parents du terroriste et l'un de ses proches sont toujours en garde à vue ce soir. Il est encore trop tôt à ce stade pour dire si le tueur a bénéficié de complicités extérieures avant l'attaque de samedi soir. En revanche, il est évident qu'il n'en avait pas forcément besoin pour passer à l'acte. Armé d'un couteau, lame blanche de 10 cm et seul à se précipiter sur les passants au cri de Allahu Akbar. Son profil illustre parfaitement le mode d'action préconisé par le groupe État islamique dès septembre 2014. Cet appel à tuer les incroyants, en particulier les Français, de n'importe quelle manière, avec un inventaire macabre et précis des moyens possibles pour le faire. Moyens accessibles à tous, ce fut le cas aussi à Nice le 14 juillet 2016, quand le terroriste avait foncé sur la foule au volant de son camion. Moyens rudimentaires, mode opératoire simplifié, d'où le qualificatif de terrorisme low cost, d'autant plus difficile à détecter qu'il ne nécessite pas de longs préparatifs, ne vise pas de cibles particulières, en l'occurrence de simples civils. Croire que les défaites militaires de l'organisation État islamique pouvaient coïncider avec un arrêt des actions sur le territoire français n'est qu'illusion. C'est lorsque la bête est blessée qu'elle est la plus dangereuse, rappellent les spécialistes de l'antiterrorisme, confrontés à ces individus isolés, imprégnés des discours de haine véhiculés sur les réseaux sociaux. Dire que les actions du renseignement et de la sécurité intérieure sont inopérantes serait tout aussi faux. Depuis octobre 2013, l'attentat de samedi est le 12e perpétré en France, mais 17 autres ont échoué et une cinquantaine de projets ont été déjoués.
Florence Thuram, la mobilisation contre la réforme ferroviaire a connu un sursaut aujourd'hui. Il y avait 27,6% de grévistes au total et trois quarts des conducteurs et des contrôleurs étaient mobilisés. La tension est palpable. Chez les salariés, la rumeur circule d'un projet de privatisation caché, tandis que la direction porte plainte pour des actes de malveillance, Catherine Pétillon.
Oui, c'est pour la première fois depuis le début de la grève, des incidents matériels sont à déplorer, signe de la tension qui persiste. La SNCF a aussitôt dénoncé par la voix de son directeur général adjoint, Mathias Vichra, ses dégradations de matériel.
On en a dénombré à peu près une cinquantaine dans la matinée d'aujourd'hui, qui vont de rupture de caténaires, blocage de signalisation, en passant par le blocage de voies. On a eu notamment trois régions qui ont été particulièrement touchées, Normandie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Hauts-de-France. Pour les actes les plus importants, évidemment, on porte plainte. On a mobilisé des huissiers qui se sont rendus sur place et on souhaite évidemment avoir la plus grande fermeté puisque si le droit de grève est évidemment un droit constitutionnel, là il s'agit d'un détournement manifeste du droit de grève qui est très pénalisant pour des milliers et des milliers de clients.
Malgré ces incidents, la journée de mobilisation est plutôt une réussite pour les syndicats. Le taux de grévistes a dépassé les 27%, un chiffre, vous le disiez, qui atteint les 74% chez les conducteurs et les contrôleurs. Alors certes, on ne peut pas vraiment parler d'une journée sans cheminots et sans train comme l'avaient souhaité les syndicats, mais après avoir largement baissé la semaine dernière, la participation au mouvement a retrouvé les niveaux du début de la grève. L'intersyndicale a également lancé aujourd'hui sa vote-action. Les cheminots ont jusqu'au 21 mai pour se prononcer pour ou contre la réforme de la SNCF. De ce côté, la direction ne veut voir dans la mobilisation du jour qu'un regain ponctuel et annonce un retour du trafic à la normale dès demain.
Catherine Pétillon. Un comité de pilotage sur l'avenir des terres agricoles de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes s'est tenu cet après-midi à la préfecture de Nantes. Réunion présidée par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. L'enjeu de cette rencontre, c'était d'analyser les 28 dossiers agricoles déposés par les occupants de la ZAD. Une quinzaine de projets sont finalement éligibles à un bail précaire, Véronique Reberotte.
Oui, les 300 manifestants réunis devant la préfecture en espéraient un peu plus. 15 projets éligibles sur les 28 projets agricoles déposés. Pour les autres, nous avons besoin de temps pour continuer à les examiner, a déclaré le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, soit parce que les dossiers sont incomplets, soit en raison de conflits d'usage avec d'autres exploitations agricoles, notamment des agriculteurs qui souhaitent récupérer leurs terres. Côté zadiste, on estime qu'il faudra aussi la reconnaissance d'autres projets agricoles et autres, culturels, artisanaux, pour, je cite, que cette campagne ne devienne pas un désert comme partout ailleurs. Pour Dominique Fresneau, le coprésident de la CIPA, l'association d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il faudra surtout que les menaces d'expulsion cessent et que il y a un petit peu de temps pour que ces projets se mettent en place.
Véronique Reberotte. Après l'examen en commission la semaine dernière, les députés se penchent à partir de ce soir sur le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, un texte qui divise l'Assemblée, notamment au sujet de la protection des mineurs. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Pour la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une avancée fondamentale, mais pour une partie des députés, c'est au contraire un texte de recul.
Et ces députés opposés au texte, ils sont pour la plupart de la France insoumise. Et c'est l'article 2 de ce projet de loi, qui en compte 4, qui suscite le plus d'émoi dans l'opposition. Il concerne la répression des infractions sexuelles sur les mineurs. C'est lui qui concentre le plus grand nombre d'amendements. Il fait suite à deux décisions judiciaires qui ont choqué l'opinion publique. Deux fillettes de 11 ans qui ont été considérées comme consentantes lors de relations sexuelles avec des adultes. Les plaintes ont donc été requalifiées en atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Le gouvernement souhaitait dans un premier temps instaurer un âge minimal de consentement de 15 ans qui correspond à la majorité sexuelle en France, mais le Conseil d'État a rejeté cette option craignant une inconstitutionnalité. Marlène Schiappa doit donc se contenter d'une réforme à minima. Le texte présenté aujourd'hui propose deux évolutions. Il précise les notions de contrainte morale et de surprise qui constituent un viol. Si le mineur a moins de 15 ans, l'acte sexuel peut être un viol par abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Le viol ne sera donc pas systématique, mais laissé à l'appréciation du juge qui pourra donc requalifier le viol en simple atteinte sexuelle. Et deuxième évolution, le texte double à 10 ans d'emprisonnement la peine pour le délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. Mais cette peine reste inférieure à celle du viol, crime passible de 20 ans de réclusion. Malgré ces deux évolutions, les associations de protection de l'enfance voient dans cet article une marche arrière et près de 250 personnes ont demandé dans une lettre ouverte de retirer cet article. Les signataires estiment qu'il ouvre la porte à une correctionnalisation massive des viols de mineurs.
Antoine Marette, en direct de l'Assemblée nationale. Au Festival de Cannes ce week-end, 82 femmes appelées à la parité et à l'égalité salariale. La ministre de la Culture va dans leur sens. Elle annonce des assises en faveur de l'égalité dans les festivals de cinéma. Le Festival de Cannes a signé d'ores et déjà une charte qui va dans ce sens. Enfin, le prix de l'initiative européenne est attribué cette année à notre consoeur, Marie-Christine Vallée, chargée à Radio France du traitement éditorial des questions européennes. européenne. Le jury salue la qualité de son travail sur l'Europe et les efforts qu'elle déploie dans l'émission Micro-Européen sur France Info pour présenter les questions européennes d'une manière claire, précise et vivante. La météo, la journée de demain s'annonce calme et agréable de la Bretagne à la frontière belge, malgré un petit risque d'onde l'après-midi. Temps plutôt lumineux également de Roussillon à la région PACA, mais il pleuvra sur les Alpes du Sud. Ailleurs, le ciel sera gris et pluvieux. Température 5 à 12 degrés le matin, 14 à 23 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.